On commence dans une minute. Merci aux rabbanim qui m'ont précédé et eux aussi merci de prendre part dans notre association. C'est quelque chose qui est pas complètement compris d'avance. C'est quelque chose de très très important. Ce sont des maîtres aujourd'hui de notre génération et donc Baruch Hashem que nous fassions tous partie d'un grand programme. Alors voilà, aujourd'hui nous allons parler de Pourim et le sujet qui a été choisi, c'était la sagesse divine qui se dévoile en ce jour précis. Quand je dis que cette lumière se dévoile en ce jour précis, je veux dire par là que l'énergie qui s'est dévoilée dans l'univers au moment de l'histoire de Mordechai, Esther et de Pourim, d'une manière générale, eh bien, cette lumière ne disparaît pas, elle revient au même moment de l'histoire, chaque année, jusqu'à la fin des temps, y compris à la fin des temps. Tout simplement parce que nous disent les Chachamim que tous les degrés de fête de l'année disparaîtront, sauf la fête de Pourim. Pour nous dire que cette énergie est une énergie qui est d'une manière qu'on appelle Netzach, donc qui fait partie de l'éternité. Comme il est dit dans la Megillat Esther, « Vehayamim ha'elu nizkarim ve'na'asim ». C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé se répète dans l'histoire au même moment durant ces jours. Ces jours sont porteurs d'une énergie et donc cette lumière qui a déjà agi dans le monde au moment de Mordechai et d'Esther, en fait, existe dans le monde avant même Mordechai et Esther. Je veux dire par là que la lumière de Pourim existe depuis la création du monde. HaKadosh Baruch Hu a placé dans le monde des énergies au niveau temporel. Et chaque année est remplie de balises, comme s'il y avait des stations de dévoilement de lumière. Si la génération mérite, eh bien elle capte la lumière qui se trouve au même moment dans l'univers. C'est ce qui s'est passé avec Mordechai et Esther, qui étaient des grands kabbalistes et qui ont capté la lumière émanée en ce jour-là. Et donc, chaque année, au même moment, depuis la création du monde, cette énergie circule dans l'univers et c'est à nous de la capter. Comment est-ce qu'on capte cette lumière? Eh bien, par les mitzvot de la fête en question. Là, nous parlons de Pourim. Eh bien, toutes les mitzvot que nous allons faire à Pourim, c'est tout simplement pour faire en sorte de capter cette lumière qui existe avec nous ou malgré nous, sans nous ou avec nous. Ça ne change rien. L'émission est là, elle est émise, et c'est à nous de la capter ou de l'ignorer, chas v'shalom, en ce jour de Pourim. Et si nous captons cette lumière de Pourim par les mitzvot de la journée et par la kavana que nous avons de faire descendre cette lumière dans notre monde, eh bien, ça changera toute notre fête, et non pas seulement notre fête, mais tous les jours de l'année qui viendront après Pourim. Alors, cette lumière, cette force qui est inscrite, gravée dans le temps, s'appelle d'un nom codé, Yesod de Abba. Ne vous inquiétez pas, c'est une expression kabbalistique. Cette lumière va apparaître dans le monde à partir de lundi soir jusqu'à mercredi soir. Étant donné que nous avons le Pourim des villes qui n'ont pas de murailles depuis le temps de Josué, plus les villes comme Jérusalem, qui sont entourées de murailles, même au moment de Yoshua Binoun. Ce qui fait que nous avons cette lumière durant deux jours. C'est pour ça que dans la Megillah, on ne parle jamais de Pourim au singulier, on parle et on dit Yemei HaPurim, les jours de Pourim. Et donc, les jours de Pourim, c'est le 14 et le 15 du mois de Hadar. Donc, la lumière codée s'appelle Yesod de Abba. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Qu'est-ce que c'est que ce code? Alors, Yesod, nous l'avons étudié, c'est la sphère, la séphira, qui est responsable de faire passer l'énergie. Comme dans le corps humain, le Yesod, c'est l'endroit par lequel la vie passe, la semence passe. Et donc, c'est un degré qui fait lien entre le côté masculin et le côté féminin. Eh bien, dans l'univers, il y a la source de ce membre-là, qui se retrouve après dans le corps humain, mais bien avant lui, il y a la source de cette force-là qui joue le même rôle. C'est-à-dire que c'est un canal par lequel le ciel et la terre, le masculin et le féminin, se marient. Et lorsqu'il y a fécondation, eh bien, il y a enfant, il y a grossesse, il y a accouchement. Alors, pas forcément de bébé, mais forcément accouchement de quelque chose. Ce n'est pas par hasard que le jour de Pourim est appelé le jour de la fécondation. Pérou, Urvu, fructifiez-vous, Pourim. Pourim fait référence à un acte intime entre l'infini et le fini. Et comme par hasard, c'est le jour de la Brit Mila de Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar, donc le jour de sa Brit Mila, c'est le 14, c'est-à-dire que nous fêtons en même temps la Brit Mila de Moshe Rabbeinu et en même temps la Brit Mila en fait de l'univers, celle qui nous permet de faire le lien entre le masculin infini et le féminin censé le révéler. J'espère que les choses sont claires. Alors, pour comprendre ce qui se passe ce jour-là, nous avons déjà focalisé l'élément, donc il est au niveau de la brite, il est au niveau de l'alliance, il est au niveau du lien. Maintenant, le Ari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria, Alav HaShalom, dans les Kavanot concernant Pourim, nous dit que cette force-là, qu'on appelait donc par le nom de code Yesod, de Abba, eh bien, je vous ai déjà décortiqué un petit peu la notion de Yesod, qui est le fondement, qui est le passage de la vie. Et maintenant, on va rajouter de Abba, donc de Papa. Papa, dans la Kabbalah, vous savez que c'est un partsouf, mais qui correspond à la sphère de Chochma. Donc, en réalité, nous sommes dans la sagesse divine qui se découle à travers le Yesod, la Brit Mila, pour nous arriver dans ce monde. Donc, le jour de Pourim, c'est la sagesse divine qui s'appelle Papa qui se dévoile dans notre vie. Et donc, quand est-ce que ça va se faire? Eh bien, d'une manière extrêmement hors de tout ce qui se passe durant l'année. Et là, je vais un tout petit peu faire une parenthèse et je vous explique un petit peu comment ça se passe au niveau de la Géoula. D'abord, vous comprenez que chaque fois que nous sommes à une charnière du temps, c'est-à-dire que nous devons construire un temple, donc revenir sur notre terre et retrouver notre côté national, si on ne le fait pas, à la place de cela, il y a un pogrom, toujours. Et donc, c'est inscrit dans la paracha que nous avons lue hier, parachat Zachor. Zachor est asher asa lecha Amalek, baderech betzetrem mimitzrayim. Donc, Amalek, par définition, n'attaque qu'à la sortie de n'importe quel exil qu'on va appeler d'une manière générale Mitzrayim, Égypte. Donc, dès qu'un exil est terminé, est censé être terminé, et que toi, tu ne comprends pas, donc tu ne rentres pas sur ta terre, sache qu'il y a un pogrom en route. Pourquoi ? Tout simplement, et là je vous l'explique au niveau kabbalistique. Les éléments entre Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël, lorsque nous sommes dans une période d'exil, c'est comme si nous étions dos à dos avec l'Éternel. Alors je vous le fais avec mes mains, c'est comme si nous étions dos à dos. Arrive le moment de la Géoula, et cette position de dos à dos n'est pas une position normale, c'est comme si vous étiez fâché avec votre mari ou avec votre femme. Et donc, Akadosh Baruch Hu et l'Assemblée d'Israël se donnent le dos. Situation anormale, situation d'exil. Au moment de la Géoula, les visages se tournent et deviennent face à face. Vous comprenez pourquoi vous prenez les deux pains quand vous faites le Hamotzi Lechem Min Haaretz et vous les mettez face à face pour qu'il n'y ait plus de dos. Il n'y a qu'une face. Et quand vous regardez les deux pains, vous regardez qu'une face de tous les côtés, vous ne voyez que la face. Eh bien, ça, c'est le secret du passage de l'exil à la Géoula. Au moment où les deux visages deviennent face à face, eh bien, dans ce passage-là, avant que les visages ne reviennent face à face, il y a ce qu'on appelle un moment de sommeil, une dormita dans le langage kabbalistique. Cette dormita, ce sommeil, c'est le côté masculin qui est plongé dans ce sommeil au moment de l'opération, qui va le séparer de cette partie féminine parce qu'ils sont dos à dos collés et qui va permettre à la femme de venir face à face après être découpée. Combien de degrés sont découpés entre le côté mâle et le côté femelle? 6 degrés. Donc à chaque fois que nous sommes dans une phase de passage de l'exil à la Géoula, nous avons 6 degrés de découpe. Si nous ne faisons pas l'acte de venir de nous-mêmes en Israël, on a 6 millions de morts, parce qu'il y a 6 degrés de découpage. C'est ce que nous révèlent nos sages dans la Kabbalah. Et donc il y a à chaque fois qu'il y a une possibilité de Géoula et que nous ne prenons pas en compte ce degré-là, eh bien, Chas v'Shalom, on est face à un pogrom qui est en train de se mettre en place. Moralité, au moment de cette extinction, de cette dormita du sommeil, du côté masculin, qu'est-ce que c'est qu'un sommeil? Eh bien, c'est comme si la Neshama l'a quitté. Au moment où vous allez dormir, la Neshama vous quitte. Donc, au moment où la Neshama vous quitte, vous êtes dans un degré de sommeil. À Pourim, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Et le Harizal nous révèle donc le grand secret de Pourim, c'est que même au moment du sommeil, Akadosh Baruch Hu fait dévoiler cette grande lumière qu'on a tout à l'heure exprimée par le Yesod des Abba. Autrement dit, même quand tout est en sommeil, cette lumière va agir et donc va empêcher un pogrom. Et c'est pourquoi le pogrom qui était censé être à Pourim n'a pas eu lieu finalement. Et c'est Israël qui a dominé ses ennemis. Cette lumière, nous dit le Harizal, ne se trouve pas seulement dans l'histoire de Pourim au niveau du passé, mais elle se trouve au niveau du présent. Alors, pour bien inscrire ce degré dans notre mémoire, la Halakha nous dit que si tu lis la Megillah le soir et le matin de Pourim, si par exemple tu lis un passage alors que tu as sauté un autre, tu t'es trompé, et après tu reviens pour compléter le passage que tu as sauté, que tu n'as pas lu, eh bien, ta lecture n'est pas bonne. Tu dois recommencer tout depuis le début. Pourquoi? Nous disent les Chachamim, c'est une façon de parler. Alors, en hébreu, ça s'appelle « Hakore et Hamegila le Mafrea lo yatsa yede chovato ». Celui qui lit la Megillah, comme je viens de vous l'expliquer, n'est pas quitte de la mitzvah, de la lecture de la Megillah. Pourquoi? Plus profondément que la Halakha, cela veut dire que ton histoire, tu ne la lis qu'au passé. Avec des mots simples, tu ne comprends pas, pour une raison que j'ignore, que l'histoire est en train d'être vécue maintenant, au présent. Et toi, tu lis la Megillah comme la Haggadah de Pessah, comme toutes les fêtes, comme si c'était des histoires qui se sont passées un jour dans l'histoire, mais qui ne correspondent plus à notre actualité. Donc tu n'es pas quitte, tu n'es pas sorti, parce que tu risques, chas v'shalom, de payer cette malentendement, cette malcompréhension des choses. Donc, on te demande de lire la Megillah avec les yeux du présent. Ce qui s'est passé là-bas est en train de se passer au présent devant toi maintenant. Ouvre tes yeux et tes oreilles et ton cœur et comprends bien que tu es en train de vivre la même époque avec d'autres acteurs. Et ça, c'est très important à comprendre. Et donc, toutes les mitzvot de la journée sont des mitzvot qui vont nous permettre de capter cette lumière de Yesod de Abba, donc le fondement du Papa supérieur, d'Akadosh Baruch Hu, la lumière la plus cachée qui soit, qui descend et qui se dévoile dans notre monde par la lecture de la Megillah le soir et le matin, par les cadeaux que tu vas donner à ceux qui n'ont pas de quoi manger ou faire leur repas, par le festin de Pourim, à savoir nourriture et boisson que tu vas faire, et tout ceci va te permettre en réalité de capter cette lumière. Bien entendu, avant de pénétrer dans cette catégorie de Pourim, qui est donc une journée extrêmement puissante, il faut que tu enlèves toutes les gênes. Les gênes s'appellent d'une manière collective et codée aussi Amalek. Donc, c'est pour ça que nous avons lu Amalek hier, pendant Shabbat, parce que c'est le Shabbat avec sa grande lumière qui peut nous faire enlever Amalek de notre vie. D'ailleurs, si vous avez lu hier le degré de Amalek, aujourd'hui, vous devriez être avec beaucoup moins de doutes dans votre tête, beaucoup plus clair dans votre vie, beaucoup plus sur votre identité, parce que justement, vous avez fait l'acte hier, ne serait-ce que par la lecture, d'effacer le souvenir de Amalek, donc d'empêcher les empêcheurs, d'empêcher les obstacles de nous obstruer le passage de cette grande lumière de Yesod de Abba. Alors, le porteur de ce grand degré, de cette grande lumière, au niveau du temps, nous venons de le dire, c'est les jours de Pourim. Au niveau humain, c'est Mordechai et Esther. Donc Mordechai et Esther ne sont pas seulement des hommes et des femmes, un homme et une femme, ce sont des noms de code. Mordechai qui veut dire Maredachia, le parfum pur. C'est ça le nom de Mordechai. Or, le Rav Kook nous dit sans arrêt, dans tous ses textes, le jour de la grande délivrance finale, le monde sera parfumé d'un grand parfum. Où est-ce qu'il est allé chercher cela? Eh bien, dans la définition de Mordechai Maredachia, celui qui est un parfum qui purifie le monde. Et ce grand parfum se trouve à Pourim. Et ce n'est pas par hasard que la femme qui correspond à ce parfum s'appelle aussi Hadassah. Donc c'est aussi le myrte qui a une très bonne odeur que nous prenons aussi pendant la fête de Sukkot, les Hadassim. Donc vous voyez ici que nous avons affaire à un parfum qui vient de l'au-delà et qui parfume notre monde parce que le monde est déjà nettoyé des résidus de Amalek qui obstruent le passage de l'infini vers le fini. Et donc Mordechai, c'est lui qui va être le porteur de ce microbe divin, j'allais dire, qui est en réalité une très grande lumière. Et donc il est le porteur de la lumière divine. Mordechai, on l'appelle aussi Mordechai, Mordechai, c'est-à-dire le parfum libre, comme le dror qui est le moineau, l'oiseau, petit oiseau israélien que vous voyez ici de partout. Même quand vous mangez dans un restaurant, il vient manger avec vous. C'est l'oiseau israélien qu'on appelle le dror, donc on l'appelle, traduction libre, le libre. L'oiseau libre par définition. Et donc, il y a ici un jeu qui est très important, qui est très sérieux. Quand je dis « jeu », vous pensez immédiatement à des bêtises. Non. Tout est un grand jeu, mais très sérieux. Et quand je vous dis d'être sérieux, vous devriez sourire. Parce que le véritable sérieux, c'est le sourire, c'est le rire. Puisqu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas plus sérieux, mais il est tout le temps dans la simcha, tout le temps dans la joie. Chez Asimcha Bim Ono, il est tout le temps dans ce rire. Et ne vous oubliez jamais que le premier Israël de l'histoire s'appelle le rigolo, Yitzhak, celui qui rit. Donc en réalité, nous sommes entourés de rire et nous devons sans arrêt rire, plus encore que sourire. Parce que sourire, c'est encore, on dirait que tu es coincé. Donc on ne veut pas être sourire, on veut être rire. Et c'est ça la grande force de Pourim. Donc il s'agit d'une délivrance, d'un étage tellement supérieur qui nous fait revenir en réalité au monde avant la faute du premier homme. Voilà la qualité de cette sagesse divine qui apparaît à Pourim. Et c'est un degré que jamais, au grand jamais, le monde n'a pu voir, parce qu'il n'y avait que Adam Arishon dans cet état, et là nous sommes dans la même situation le jour de Pourim, et ce n'est pas par hasard que c'est le jour choisi par l'infini pour nous donner la Torah orale. Vous savez que le jour de Pourim, c'est le jour du don de la Torah et de la réception de la Torah. C'est inscrit d'une manière codée à la fin de la Megillah, que ce jour-là, on a reçu ce qui nous a déjà été donné. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça nous a été donné de force, et là, nous l'avons reçu par volonté, par choix. Pourquoi? On va l'expliquer tout à l'heure, Be'ezrat Hashem. Donc, il y a ici quelque chose qui est énorme. On reçoit la Torah, donc on reçoit la lumière divine. Or, nous savons que la Torah vient de la sagesse divine. Chochma, ken oraita mi chochma nafakit, nous disent dans le Zohar les sages que la Torah vient de la chochma divine. La Torah, c'est la sagesse divine. Elle sort de cette sphira de chochma. Par où elle passe? Eh bien, par la partie qui donne la vie, comme nous l'avons défini tout à l'heure, le Yesod. Et donc, le Yesod de Abba, c'est par là que passe la Torah. Donc, la Torah, la véritable Torah profonde, celle que nous n'avons pas voulu recevoir au Mont Sinaï, on la reçoit le jour de Pourim. Et comme je vous ai dit que ce n'était pas seulement un degré d'histoire déjà passé, eh bien, demain soir, mardi toute la journée et mercredi toute la journée, c'est un jour de réception de la Torah. Alors là, je vous mets en garde. Ceux qui recevront la Torah par leur choix, par leur volonté, par l'amour de Dieu en ce jour-là, auront beaucoup plus de Torah et de niveaux de compréhension durant toute l'année. Écoutez bien, ce n'est pas un jour où on se déguise d'un degré bidon, ce n'est pas un carnaval façon Israël. C'est le jour où tu peux amplifier ta Torah. Et d'après la halakha, tu n'as pas le droit de jeûner le jour de Pourim parce que cette Torah doit être consommée, parce que tu es en train de consommer la vie. Donc ne jeûne pas en ce jour de Pourim. Cette lumière-là de la chokhma divine qu'Akadosh Baruch Hu a utilisée pour créer le monde, comme nous le disons, « Kulam bechokhma asita ». Toute la création a été faite par la même lumière qui apparaît à Pourim. Donc en réalité, Akadosh Baruch Hu nous révèle, nous donne le secret de comment lui-même a créé le monde. Extraordinaire. Bien entendu, c'est un degré qui nous dépasse tellement qu'avec ton petit cerveau cartésien, tu ne peux pas comprendre. T'inquiète pas, c'est pas grave. Alors lâche prise. Lâche prise ce jour-là. Si tu veux comprendre ce jour-là, tu es à côté de la plaque. Il ne faut pas comprendre ce jour-là. Il ne faut pas savoir ce jour-là. Il faut vivre ce jour-là. Moshe, au sommet de sa carrière, il est écrit « Moshe Loyada ». Ça veut dire au degré le plus élevé qu'il ait reçu en tant qu'homme de la lumière divine, le texte de la Torah nous dit « Ce jour-là, il ne savait rien. » C'est-à-dire il a lâché prise totalement. Eh bien, quand tu lâches prise, tu reçois ce degré de vie, cette intensité de vie que tu n'es pas capable de comprendre. Aujourd'hui, toutes nos décisions, pratiquement, viennent parce que nous réfléchissons avec notre cerveau. Alors qu'en réalité, nous mettons de côté la réflexion divine, qui elle est beaucoup plus infinie, qu'elle nous dépasse complètement. Mais comme tu ne fais pas confiance parce que tu n'as pas de confiance quand tu lâches prise, eh bien tu as toujours ce problème. Dès que tu lâches prise, imaginez-vous un astronaute qui sort de sa capsule, mais il n'a pas de corde avec la capsule, on le balance dans l'espace. Eh bien, c'est comme ça qu'on doit être à Pourim. Si tu as toujours un petit truc qui te rassure, qui t'attache à ta capsule, eh bien, tu n'es pas encore dans ce degré de Pourim. Pourim, ça doit arriver à un degré où tu confonds le bien et le mal. Parce qu'il y a un degré où le bien et le mal, c'est la même chose. Mais ça, tu n'arrives pas à le comprendre. Ta première question, quand je te dis ça, c'est « mais comment ?» Voilà, le problème, c'est « mais comment ?» Eh bien, quand tu bois du vin, quand tu te parfumes par le vin, comme nous demandent de faire les sages dans le traité de Pourim, de Megillah, eh bien, tu es dans ce degré de « je ne sais plus ». Qu'est-ce que ça veut dire « je ne sais plus » ? En hébreu, vous connaissez toute cette expression liée à Pourim, Ad de lo yada. Tu dois lâcher ton côté cartésien, dur hein, pour les intellos. Aïe, 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 aïe. Votre plus grand ennemi, c'est justement votre intelligence. Parce que vous ne pouvez rien faire sans cette intelligence. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. C'est pour ça que vous vivez moins intensément que quelqu'un qui vit. Vous, vous avez besoin de comprendre comment vivre, alors que eux vivent. C'est une grande différence, Rabotai. Et un jour dans l'année, on ne te dit pas de jeter ton intelligence, mais un jour dans l'année, sache qu'il y a un degré qui dépasse ton intelligence cartésienne, qui dépasse ta logique, qui dépasse tout ton côté intello et qui est une sagesse divine bien au-dessus de ton petit cerveau cartésien reptilien. Et cette lumière-là, une fois qu'elle est là, une fois que tu l'as reçue à Pourim, eh bien, le lendemain de Pourim, après Pourim, tu vas commencer à l'étudier. Là, va revenir ton côté intelligent cartésien. On ne l'a pas jeté à la poubelle pour tout le temps. On le met en sommeil pendant Pourim, pour le récupérer après Pourim et essayer d'analyser cette fois-ci avec ton cerveau cette lumière que tu auras intégrée, que tu auras mangée pendant cette fête de Pourim. Et donc, il y a ici quelque chose de très profond qui déshabille. Quand je dis déshabille, ça veut dire que c'est une lumière qui ne passe pas par les vêtements classiques de ton cerveau. Car le cerveau sert de vêtement, d'obstacle, de tzimtzum, d'écran à cette grande sagesse divine. Le jour de Pourim, tu dois arrêter. Cette lumière ne passe pas par des vêtements. Elle passe par un degré qui dépasse tout ce que tu connais. Maintenant, vous comprenez pourquoi Mordechai déchire ses vêtements. Il déchire ses vêtements pour demander à Dieu, je ne veux pas une Géoula classique, je veux une Géoula qui contourne les vêtements de ce monde. Encore une fois, les vêtements, c'est le cerveau humain, c'est l'intellect humain. Et pendant Pourim, tu dois éloigner cet intellect pour voir les choses, pour vivre les choses d'un degré supérieur. Et donc, tu ne dois pas te préparer. Le jour de Pourim, ce n'est pas un jour où on s'assoit et on donne des cours. Le jour de Pourim, on te demande de manger et de boire pour que la Torah soit intégrée. Cette Seouda, en hébreu, le mot Seouda, vient de la racine Mas'oud. Vous connaissez ce nom, c'est un nom qui se dit en arabe et en hébreu. Mais la racine du mot Mas'oud ou Seouda veut dire une aide, l'ishkat hassa'ad. Donc, Seouda, c'est une aide à faire quoi? À habiller cette sagesse dont je vous parle depuis tout à l'heure, Yesod de Abba, dans de la nourriture que tu vas intégrer. Pas dans l'étude au niveau du cerveau, dans la nourriture, dans la boisson, dans la viande et dans le vin que tu vas intégrer. Et cette sagesse en toi va commencer à faire des merveilles. Et tu vas commencer à voir des choses et non pas à réfléchir à ce que tu dis. Bien entendu, il faut arriver à ce niveau-là parce que quand le vin rentre, ce secret-là va sortir. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Quel est le secret qui l'anime à l'intérieur? Si, chas v'shalom, ton secret n'est pas très joli, alors quand tu vas boire, ça va sortir sous une forme pas très sympathique. Tu vas commencer à dire des bêtises, tu vas devenir grossier, tu vas faire des bêtises, ça ne va pas. Mais si tu es plein de Torah, eh bien, c'est ce qui va sortir quand tu seras bien, bien imprégné de ce vin. Ce degré-là s'appelle dans la Kabbalah Radla. Vous l'avez sûrement entendu tout à l'heure dans le cours du Rav Cherki. Shlita, le mot Radla. Radla, c'est un degré qui s'appelle Resha de la Ityada. Un degré de non. Connaissance, un degré qui dépasse la connaissance, un degré qui s'appelle Ad de Loyada, un degré qui te demande d'écarter momentanément pendant Pourim ta conscience humaine. Qu'est-ce que c'est que ce Rad-là? Qu'est-ce que c'est que cette tête? Eh bien, c'est une notion kabbalistique qui indique la source même du peuple d'Israël. Alors écoutez bien, attachez vos ceintures, c'est quelque chose de très important. Le jour de Pourim, si vous lâchez prise, eh bien vous êtes censé toucher la racine même de notre peuple. De là où est né notre peuple d'Israël, de là où il a été puisé. Et donc je vous répète le nom en hébreu, Resha de la Itieda. C'est un degré tellement puissant, tellement haut, tellement secret, que même lui n'arrive pas à se connaître lui-même. Tout ceci pour nous indiquer que la source de notre peuple, l'âme de notre peuple, celle qui a été créée par l'infini, est liée à un degré, a été prise d'un degré qui est en dehors de la connaissance logique divine humaine. C'est un degré qui dépasse l'entendement. C'est un degré qui est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, de tout ce que vous pouvez comprendre. C'est un degré qui est la prophétie à la source même des choses. Et si tu arrives un jour à rencontrer cette intensité de lumière, eh bien, il n'y a plus aucun doute dans ta tête. Il n'y a plus aucun doute dans ta vie. Et tu peux atteindre l'éternité. Parce que c'est justement le degré de l'éternité qu'on appelle Netzach Israël. Et c'est pourquoi nous disons Am Israël Chai. Et vous chantez Am Israël Chai. Qu'est-ce que c'est Am Israël Chai? Eh bien, c'est ce degré dont je vous parle maintenant. Pas des Juifs. Les Juifs meurent. On enterre tous les jours, malheureusement. Je parle du peuple. Le peuple ne peut jamais s'éteindre. Et si un jour dans l'année, le jour de Pourim, tu atteins ce degré, cette intensité du peuple d'Israël, de la notion la plus première, la plus intérieure, la plus au niveau de l'âme, de ta nation d'Israël, c'est-à-dire de la volonté divine au moment même de créer ce peuple, alors tu as tout gagné. Et c'est là, cette puissance-là qui va te permettre de te libérer exactement jour pour jour, 30 jours plus tard. À Pessah. La libération de Pessah, du Seder de Pessah, vous avez vu que c'est 30 jours, jour pour jour après Pourim. Eh bien, pourquoi les Chachamim nous font ça? Pourquoi la Torah nous fait faire 30 jours avant Pessah cette nuit de Pourim et cette journée de Pourim? Parce que c'est la matrice même de la libération. Donc si tu vois, si tu contactes ce degré, si tu te relies à ce degré d'infini de la source d'Israël, dans la liberté totale, donc 30 jours plus tard, tu seras libéré tranquillement. Le soir du Seder de Pessah, tu seras sorti d'Égypte normalement. C'est ça le secret, Rabotai. C'est pas un carnaval 30 jours avant Pessah. C'est un degré très profond. Et c'est le degré par lequel Moshe Rabbeinu prophétisait. Quand Moshe prophétise, il ne dit pas « Ainsi Dieu a parlé, Ko Amar Hashem ». Non, ça c'est les autres prophètes. Moshe Rabbeinu dit « Zeh Hadavar ». Je vois la chose en question, donc je peux indiquer avec mon doigt, c'est quelque chose de concret. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Ça ne vient pas par des actes. Ça vient par mon être. Ça vient par ma nature des choses. Et c'est pourquoi ça s'appelle Aspaklaria Meira. C'est un degré de dévoilement clair que Moshe reçoit. Et donc Moshe lui-même, avant Mordechai dans l'histoire, est porteur de ce même degré qu'on appelle Yesod de Abba. Donc même Moshe, porteur de ce degré. Donc, vous comprenez que dans l'histoire d'Israël, nous avons plusieurs personnages bibliques et après la Bible qui sont porteurs de ce degré. Vous comprenez bien que le Mashiach lui-même est porteur de ce même degré et que la Géoula finale que nous sommes en train de vivre maintenant vient par ce dévoilement-là. Par ce degré-là qui dépasse l'entendement. Vous avez vu où la logique humaine nous mène. Vous comprenez bien ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Tout ça, ça vient de la logique humaine qui veut changer, qui veut prendre la place à l'infini, à la pensée de Dieu. Quand un homme se prend pour Dieu, quand les critères du bien et du mal, c'est moi qui les décide à sa place, eh bien, c'est ce qui se passe. Et où est-ce que ça a commencé, tout ce phénomène? Eh bien, chez le serpent. Le serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Vous serez comme Dieu. Vitem ke Elohim. Autrement dit, c'est quoi le discours du serpent? Eh bien, toi-même, tu peux être responsable de ce qu'est le bien et le mal. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas des critères d'en haut, c'est subjectif, le bien et le mal. Eh bien, non. Si c'est subjectif, eh bien, tu demandes à un terroriste, il va te dire, moi, le bien, c'est de détruire le peuple d'Israël. Et c'est tout. Et aujourd'hui, étant donné que nous sommes dans une période post-modernisme, eh bien, tout est vrai. Tout est OK. Vous avez un État au monde qui dit clairement qu'il veut détruire Israël, et c'est les petits-fils de Haman, c'est l'Iran. Il n'y a personne qui branche. Pourquoi ? Ils peuvent même aller à l'ONU, on les invite à l'ONU pour dire que leur but, c'est la destruction d'Israël. Il y a quelqu'un qui bouge ? Personne. C'est extraordinaire quand même. Or, sachez que l'Iran s'appelait la Perse. Et lorsque Hitler, il marche mauvais zikro, est allé voir les Iraniens qui étaient les Perses de l'époque, il leur a dit, mais nous, on est de la même racine. On est des Aryens. Notre seul but, c'est de détruire Israël. Donc, ne vous appelez plus les Perses. Appelez-vous les Aryens, les Iraniens. Iran. Arim. Rabotaï, l'histoire se répète avec d'autres acteurs. Ouvrez les yeux. Sinon, vous allez lire la Megillah comme une histoire qui est déjà révolue. Vous n'allez pas comprendre qu'il s'agit de votre temps, d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu reçoit cette force divine par le Yesod de Abba qu'il représente lui-même sans vêtements intelligents au niveau de l'homme. Et c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il rentre, même dans le sein des saints et même dans le sein, dans le Kodesh HaKodashim, peu importe, eh bien, il vient avec un vêtement blanc. Il n'a pas besoin de vêtements spéciaux comme les autres prêtres. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il vient avec qu'un vêtement neutre. Quand ton vêtement est blanc, ça veut dire que tu ne rentres pas ton intelligence dans l'action. Tu ne rentres pas ton intelligence dans cette formulation. Tu la laisses de côté, tu es blanc, tu n'as pas une couleur à toi, tu n'es ni rose, ni blanc, ni bleu, ni vert, ni orange. T'es complètement transparent et donc l'infini peut te traverser. Et donc le véritable vêtement de Pourim, Rabotai, c'est le blanc. Comme Kippourim, à Kippour, Yom à Kippourim, tous les gens s'habillent en blanc. Or, Kippourim, c'est comme Pourim. Ça veut dire que le véritable vêtement de Pourim, c'est justement cette blancheur, cette candeur divine qui te traverse sans aucun obstacle. Alors que si tu es déjà dans les couleurs, eh bien tu es dans le Kohen Gadol qui a besoin de 8 vêtements ou de 4 vêtements selon où il se trouve. Et le jour de Pourim, j'espère que vous comprenez bien le message. Le jour du Pourim, lâchez prise. Devenez transparent. Laissez-vous traverser par cette lumière. Ne prenez pas de place. Là où vous prenez de la place, Dieu se retire. Il retire son dévoilement. Parce qu'il te dit, ben, tu te prends pour quelqu'un de très, très, très puissant. Alors moi, je me retire. Montre-moi ce que tu es capable de faire tout seul. Eh bien, le jour de Pourim, c'est exactement l'inverse. Toute la boisson, toute la consommation, tout ce que nous faisons à Pourim, c'est justement pour lâcher prise, pour arriver à un autre degré, pour devenir complètement traversé par cette lumière. Et une fois que tu auras été traversé, eh bien, c'est la sagesse divine qui te traverse, puisque c'est l'énergie de la journée. Et cette énergie, elle est dans l'air. Elle danse, elle est là. Avale-la. Comment tu vas l'avaler? Eh bien, par des éléments de ce monde. Le vin, la nourriture, c'est tout. Par le fait de donner de la tzedaka, par le fait de donner à manger à quelqu'un d'autre. Tu vas faire en sorte de tisser un appareil qui va te permettre de capter la lumière de Pourim. Et donc, c'est le jour même de la réception de la Torah. N'oubliez jamais ça. Pourim, c'est le jour du don de la Torah et de la réception de la Torah. C'est un degré que les gens oublient. Si tu demandes aux gens pourquoi tu fêtes Pourim, ils vont te rappeler l'histoire de Mordechai et d'Esther. Mais maintenant, vous comprenez qu'il y a beaucoup plus que cela. C'est le jour du don de la Torah, et pas seulement du don, mais de la réception. C'est la première fois qu'on parle de réception. Jamais Israël n'a reçu la Torah, jamais. On lui a donné la Torah, mais on ne parle pas de réception de la Torah. Même à Shavuot, le jour du don de la Torah, il est marqué dans vos livres, Zman Matan Toratenu, le jour du don de notre Torah. Mais il n'y a pas marqué qu'on l'a reçu. Eh bien, dans la Megillah, il y a marqué qu'on l'a reçu. Kimu ve Kiblu. Kiblu. Comme Moshe. Moshe Kibel Torah Misinai. Ça veut dire que le jour de Pourim, c'est le jour qui appartient à Moshe Rabbeinu. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était la Brit Milah. Le jour de la Brit Milah de Moshe Rabbeinu. Ce jour-là est imprégné par la prophétie de Moshe, qui est le plus grand des prophètes, justement parce qu'il ne mêlait pas son intelligence humaine. Et Akadosh Baruch Hu le traversait. Et donc tout ce que Moshe dit, c'est la parole de Dieu. Il ne rajoute rien de lui-même. Ce n'est pas un fondateur d'une religion qui nous raconte n'importe quoi. Ce n'est pas objectif, sinon. Il n'y a que Dieu qui est objectif, sinon tout est subjectif. Donc si tu n'es pas relié à l'objectivité divine, ben, tu as tout raté. C'est déjà faussé. C'est déjà dévoyé, tu as déjà donné une couleur. Les Chachamim nous disent que ce degré, on le traverse dans notre vie, ou plus exactement, juste avant d'arriver dans notre monde, dans le ventre de maman. Dans le ventre de maman, nous dit la Gemara, dans le traité de Nida, à la page 30, quand le fœtus est à l'intérieur du ventre de maman, eh bien, c'est cette lumière qu'il voit. Et cette lumière lui permet de voir. Vous comprenez bien que le bébé, à ce niveau-là, n'a pas de connaissance. Donc, c'est une lumière qui lui vient intuitivement. C'est comme s'il avait mis sa connaissance, même s'il ne l'a pas, mais donc il l'a mise de côté. Il n'y a pas d'intelligence encore au bébé. Donc, c'est là-bas où la Torah est la plus forte. Et c'est pourquoi, par cette lumière, nous disent les Chachamim, il peut voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'il peut voir les tenants et les aboutissants. Il peut voir les sources et les résultats. Il peut voir les causes et les conséquences. Ce qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de faire. On ne sait pas ce que demain va accoucher, va engendrer, parce qu'on ne comprend rien, on ne sait pas faire les liens entre le passé, le présent et le futur. Comme Adam Arishon qui était capable avant sa faute de voir de l'extrémité à l'extrémité. Ce n'est pas par hasard que le fœtus dans le ventre de maman, sa tête touche ses pieds. Comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que son niveau le plus élevé touche son niveau le plus bas. Il n'y a pas de différence entre sa tête et ses pieds. Alors que nous, quand on est déjà debout, il y a une distance énorme entre notre cerveau et nos agissements. C'est pour ça d'ailleurs que les Chachamim nous disent de faire très attention de ne jamais parler entre les téphilines de la main et les téphilines de la tête. Parce que déjà comme ça, il y a une différence énorme entre ce que tu penses et ce que tu fais. Si en plus de ça, tu parles et tu fais une séparation entre les téphilines de l'acte et les téphilines de la pensée, tu t'éloignes. Et lorsque le bébé sort dans ce monde, eh bien, ça y est, c'est déjà le monde des vêtements. C'est déjà le monde du déguisement. Rabotai, nous sommes dans un monde déguisé. Toute notre existence, c'est un grand déguisement. Il y a des clowns, il y a des sorciers, il y a des monstres. Tout ça, ce sont des déguisements de ce monde. À la source, on n'est pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on se déguise à Pourim. Pour justement deviner qui se cache derrière tout ça. Et c'est toujours la même chose, c'est l'essence divine. C'est l'être le plus profond. On sait très bien que celui qui s'est déguisé en Spider-Man, c'est pas Spider-Man, ça ne veut rien dire. On sait bien que la fée ou que l'abeille n'est pas une abeille. On va chercher l'intérieur de l'être. Ça va nous permettre d'étudier la vie en profondeur. Rabotai, c'est ce que nous faisons ici. C'est ce que nous vous offrons ici tous les dimanches avec l'étude de la Kabbalah, avec l'étude des profondeurs. C'est l'étude de Pourim que vous recevez tous les dimanches. Je ne sais même pas si vous êtes conscient de cela. C'est un cadeau de la fin des temps. Et ça, c'est le degré le plus élevé. On ne vous demande pas seulement de comprendre, on vous demande de voir. Vekol ha'am ro'im. Le jour où tu verras les choses. Et pas seulement que tu entendras dans ton intelligence. C'est un autre degré. Vous comprenez bien que le Zohar HaKadosh, c'est l'étude de Pourim. Parce que le Zohar ne dit jamais « viens et entends ». Il te dit toujours « viens et vois ». En araméen, « ta chazi ». Viens et vois, parce que c'est la Torah d'Eretz Israël. La Torah d'Eretz Israël n'est pas au niveau de la logique humaine. La Torah d'Eretz Israël, comme la terre d'Israël d'ailleurs, ne sont pas placées au niveau de notre cartésien. Si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas habiter en Israël. Tu vas tous les deux jours te poser la question, est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Parce que rien n'est logique ici. Et si tu mets tout ton paquet au niveau de ta logique, eh bien tu ne peux pas résister. C'est une lumière qui dépasse ta logique. Tu n'arrives pas à te soumettre à ce degré-là. C'est pour ça que tu souffres. La terre d'Israël s'appelle la terre où on se soumet à la lumière divine. Knaan, en hébreu, lehikana, je me soumets. Eretz Knaan, la terre de la soumission aux valeurs de l'infini. Et toi, non, tu veux avec ton cerveau, ton petit cerveau humain, choisir des lois, choisir des règles. C'est moi le bon Dieu. Rabotai, c'est la faute du serpent. Et les Chachamim nous disent que dans le Midrash, qu'au Mont Sinaï, le peuple d'Israël ne voulait pas recevoir la Torah. Parce qu'il y a trop de difficultés dans l'étude, ça fatigue. La Torah orale n'est pas donnée à tout le monde, elle est donnée à ceux qui sont vraiment vrais, qui aiment l'infini et qui veulent comprendre. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? Eh bien justement, on a court-circuité ça. On a court-circuité ce degré de labeur, de compréhension. Donc c'est beaucoup plus facile. Mange, bois, sois dans la simcha. C'est tout ce qu'on te demande. C'est extraordinaire. Et en plus, on nous annonce que toutes les fêtes vont avoir cette qualité-là. Hein? Même Yom HaKippourim ne sera plus un jour de jeûne. Vous comprenez que ce n'est pas normal de jeûner pour atteindre Dieu. C'est maladif. T'es né dans ce monde pour manger. La première mitzvah qui t'a été donnée, c'est mange. Akadosh Baruch Hu, comme une mère juive, elle dit à son fils, mange. Alors pourquoi tu me fais jeûner? Parce que tu n'es pas capable, par la nourriture, d'arriver à ce degré-là. Eh bien, à Pourim, tu vas manger, tu vas boire, tu vas te réjouir, tu vas être dans la simcha. C'est difficile d'être dans la simcha. Vous voyez l'époque que nous sommes en train de vivre? C'est très difficile de garder la simcha. C'est pour ça qu'on vous a demandé, je vous l'ai dit, je vous ai averti il y a 2 semaines, qu'il faut augmenter le niveau de la simcha parce que le niveau que tu as ne suffira pas avec tout ce qui va se passer. Et malheureusement, nous voyons tout ce qui se passe. Rabotai, le cours est très 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 long. Si vous avez des questions, je pense que c'est maintenant.
Arabe, les élèves ont demandé si vous pouvez faire le cours jusqu'au bout.
Je peux, il n'y a pas de souci.
Okay. Et si on y arrive, après, on posera d'autres questions, Arabe. Si on...
okay.
Après...
ok, donc vous comprenez que l'histoire de Pourim, c'est le Mont Sinaï numéro 2. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un degré de logique, c'est un degré de vie. Si je devais traduire ça par des termes que vous connaissez, ce n'est plus la consommation de la connaissance du bien et du mal, c'est la consommation de la vie. Donc à Pourim, on mange de l'arbre de la vie et non plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que si tu restes à ton niveau logique du bien et du mal, tu vas tout mélanger, tu ne sais plus du tout. La Torah nous dit qu'à la fin des temps, le monde sera à l'envers. Ce qui est en bas va être en haut, et ce qui est en haut devient en bas. Aujourd'hui, nous avons des éléments de notre peuple qui disent ils soutiennent des terroristes qui se baladent avec des drapeaux palestiniens pendant soi-disant leur manifestation. Si la manifestation, elle venait vraiment pour des lois que tu n'es pas d'accord avec, je pourrais comprendre. Mais quel est le rapport avec un drapeau palestinien? Ça veut dire que ton but, c'est de détruire. Il y a ici quelque chose de maladif, Rabotai. Et le jour de Pourim, c'est le jour de la guérison. Parce que la Chochma, c'est la guérison. Comme dit le roi Salomon, « Hachochma techaye be'alea » La sagesse divine, elle soigne celui qui la reçoit. À tel point que normalement, si tu es complètement soigné, tu n'es plus malade et tu ne peux même plus mourir. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment du don de la Torah, la mort était arrêtée. Au moment du don de la Torah, s'il n'était pas retombé dans la faute du veau d'or qu'on va lire malheureusement Shabbat qui vient, eh bien c'était fini, la mort était annulée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maladie, parce qu'il n'y a plus de manque, parce que tout est comblé, parce que tout est plein. Parce que tu es dans la simcha permanente. Vous savez que quelqu'un qui est dans la simcha permanente, si c'était possible, ne peut jamais tomber malade. Toutes les maladies, c'est à un moment donné une petite angoisse. Tu perds de la simcha, tu es un petit peu au niveau de la peur, tu es au niveau, tu as perdu quelque chose de cette entité. C'est pour ça que ça rentre. Que la maladie, que le virus trouve une faille dans ton être pour rentrer, pour pénétrer. Mais si tu étais rempli de simcha, le mot simcha, c'est les lettres de Hamashiach. Toi-même, tu es messianique. La mort ne peut pas rentrer là-dedans. Vous comprenez bien qu'il y a ici quelque chose de très puissant le jour de Pourim. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu votre Pourim jusqu'à présent, mais je vous offre ici un cadeau. Vous n'allez pas vous asseoir et manger avec des amis tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il faut le faire. Mais pensez à se lâcher prise avec vos amis. Dites à vos amis aujourd'hui, on va dans un voyage cosmique. On quitte le petit bonhomme que je suis avec toutes les connaissances qu'il croit avoir. Je ne sais plus rien. Je ne sais rien. Je suis ouvert à l'infini. C'est lui qui sait. Moi, je ne sais pas. Alors, je demande à l'infini de me traverser ce jour-là, d'être complètement le porteur de son message. Et de la même manière que vous n'avez pas le droit de vérifier à qui vous donnez de l'argent le jour de Pourim, si quelqu'un tape à la porte et vous demande l'argent, il faut lui donner. Ce n'est pas le cas pendant les jours de l'année. Seulement à Pourim. Kol hapochet yad notnim lo. Eh bien, fais la même chose, toi, avec Akadosh Baruch Hu, puisque lui-même, il a instauré cette mitzvah. Si tu ouvres tes mains et tu demandes à Akadosh Baruch Hu, lui non plus ne peut pas te refuser. Donc, demandez. Et si j'ai un conseil à vous demander, ceux qui ne sont pas encore là, demandez à Akadosh Baruch Hu que cette année vous soyez en terre d'Israël, Be'ezrat Hashem. Que vos enfants, que vos épouses, que vos époux comprennent qu'il leur tombe le degré. Ça y est, on n'a plus rien à faire en dehors de notre vie. Je dois vivre selon mon identité. Je dois rentrer sur ma terre. Parce que c'est ça la correction de Pourim. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Pourim? Parce que les gens sont restés là-bas, au lieu de venir construire le temple. Et aujourd'hui, nous sommes dans une charnière, nous sommes juste avant la création du troisième temple. Mais alors, où vous êtes? Vous participez à votre histoire ou bien vous êtes à des kilomètres, des milliers de kilomètres, à regarder par l'intermédiaire de la télévision ce qui se passe avec votre peuple? Mais ce n'est pas normal. Rabotaï, c'est de l'amour qui sort de moi. Comprenez bien que la nature de notre peuple, c'est la nature de la terre. Sinon, vous êtes dénaturé. Et c'est pour ça que Mordechai a choisi ça, cette lumière. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La preuve, c'est qu'il fallait après rentrer et construire le temple de Jérusalem. Et donc, il faut traverser ce fleuve de la peur. Ce fleuve de la peur qui est en chacun de nous. Je ne peux pas faire le pas, j'ai du mal. Vous savez pourquoi? Parce que Amalek se trouve là, c'est au moment où tu veux t'en sortir que Amalek va t'attaquer. Il ne va pas t'attaquer chez toi, tu es tranquille, c'est facile. Il va même te faciliter les choses. Rappelez-vous qu'il a invité, qu'il a fait un festin chez lui. Et tout était cachère, Beddin, Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Et c'est Aman qui lui dit, tu sais, 70 ans sont passés, ils doivent normalement rentrer sur leur terre pour construire le Beth Amikdash. Ils n'ont rien compris, ces Juifs. Yeshno Am Echad, c'est un peuple qui doit être sur sa terre, mais qu'est-ce qu'il est? Mefouzar ou Meforad Ben Amim. Il s'est éparpillé parmi les nations du monde. Mordechai, c'est la fête pour lui. Les Juifs font son propre travail. Ils n'ont pas compris que c'est l'identité Israël sur la terre qui doit être diffusée dans le monde. Rabotai, ce sont des messages forts. Je sais que c'est difficile, mais mon devoir, c'est de dire les choses. On ne peut pas raconter des histoires. On ne peut pas se mentir, je n'ai pas le droit. Alors, on peut ou on ne peut pas, mais il faut entendre le but à atteindre. Ah. Ça amène à la simcha. La Yehudim, Haïta, Ora, Vesimcha, c'est la nouvelle Torah qu'ils ont reçue, la Torah des secrets qui nous accompagne jusqu'à maintenant, au moment même de la vision. Donc l'essentiel de la Seouda de Purim, c'est dans le jour et pas la nuit. Pourquoi? Parce qu'il faut voir. Tout est au niveau de la vision. Et la Megillah aussi, la plus importante, c'est le jour, pas seulement le soir. Là aussi, parce qu'il fait jour, parce que tu vois. Donc on nous demande quelque part d'ouvrir les yeux et de nous laisser traverser par l'infini.
Ah, okay. Il y a aussi une question par rapport au Kavanot de demain, par rapport au jeûne. Quelles sont les kavanot à avoir, quelles sont les pensées à avoir pendant ce jeûne-là
pour préparer le jeûne, toujours. Là, c'est le degré de la logique. Le jeûne, c'est le degré de la logique. C'est-à-dire, en réalité, tu dois te concentrer, te contenir au niveau de ta nourriture terrestre. C'est-à-dire au niveau de ton da'at terrestre. Donc, demain, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire. Parce que ta nourriture de demain et ta boisson de demain, c'est encore à ton état humain. Prépare-toi à quelque chose qui est au-delà. Et là-bas, tu n'as plus besoin de jeûner. Au contraire, tu vas consommer de la lumière de l'arbre de la vie. C'est le tikkun même, la réparation de la consommation du bien et du mal par Adam Harishon. Le jour de Pourim, on fait le tikkun de la faute du premier homme.
Alors, Rav, j'exagère, mais il y a quelques questions. Est-ce que vous avez le temps d'y répondre?
Je prends le temps.
Monsieur Messan, vous avez une question, Rabbin Messan? Rabbin Messan?
Au suivant.
Alors, Alex, j'avais une question.
Shalom, Rav. Justement, David a fini avec, en vous posant une question sur le jeûne. J'ai toujours pas compris pourquoi, si le jeûne au départ a été institué pendant Pessah, on le fête la veille de Pourim.
Parce que justement, là, je l'ai dit, mais d'une manière assez rapide, c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas compris, c'est que la Géoula de Pourim est liée à la Géoula de Pessah. Ce sont les mêmes Géoulot. C'est pour ça que quand vous avez deux Hadar, comme dans une année embolismique, on fait le Pourim dans le deuxième Hadar pour qu'il soit collé au mois de Nissan.
Les donc, smorgues, c'est la
même, exactement, c'est la même force.
Question de Rabbin Messan, vous avez allumé votre micro?
Oui, merci. Kavod Rav, merci beaucoup.
Shalom
Uvracha. Nakasham, ce que vous êtes en train de nous enseigner, il me semble que dans le Esraïm, Perek Ramishi, il parle effectivement de l'endormissement de Zérapine. Bien. Et après, il va dire que, comme vous l'avez dit, que Rogma, c'est la Torah chez Birtav. Mais au moment de Purim, ça va descendre dans le Malchut, dans la femme.
En dehors de la Malchut. C'est pas dans la Malchut, ça va sortir de la Malchut.
Oui, ça va sortir.
Parce que le Yesod de la Malchut est court, alors que le Yesod de Abba est long. Donc, il va traverser, il va rentrer par sa tête mais il va sortir par son côté bas.
Et il dit, c'est ainsi que ça va s'appeler Megillah, ça ne va plus s'appeler Torah.
Exactement.
Parce que la femme a dévoilé ça. Donc, on peut comparer ça à ce que Hachem, il a fait au moment de la création de la femme, quand il a fait endormir l'homme, dans le Genèse 2, verset 21, par là, et que c'est la construction. Donc, comment vous pouvez nous réexpliquer, en fait, ce processus de découpage?
Tout simplement, c'est l'homme qui est en sommeil quand la femme est en train d'être créée. Et à Pourim, même pendant ce sommeil où il n'y a plus de lumière, donc la femme ne reçoit plus de personne, et là, elle va recevoir d'un degré beaucoup plus élevé que par l'homme. Et donc, c'est pour ça que la femme va recevoir le degré de son père. Abba Yassad Brata. Donc, c'est le père, la Chokhma, que j'ai dit tout à l'heure, qui va donner, en fait, toute la vie à la Malchut. Comment est-ce qu'on l'exprime? Par le fait d'ouvrir la Megillah avant de commencer à la lire. Vous savez qu'on ne peut pas lire la Megillah en la roulant petit à petit comme un Sefer Torah. Il faut complètement l'ouvrir. Et c'est seulement quand elle est complètement ouverte, qui fait référence à Yesod de Abba qui est long, qui a dépassé la Malchut et qui se trouve dans ce monde. Un jour, Be'ezrat Hashem, on fera un cours sur la Dormita, sur le sommeil qui précède le passage face à face.
Arabe, deux dernières questions. Question de Avinoam. Avinoam, tu veux poser la question?
Shalom, Rav, vous m'entendez?
Je vous entends. Oui. Shalom, Avinoam.
Shalom. J'avais une petite question. Vous avez mentionné que Pourim, c'était également le don de la Torah. Alors, j'aimerais savoir également comment, d'Avka, ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner la Torah, comment il célèbre son Pourim?
Eh bien, Akadosh Baruch Hu, en fait, la Torah, je l'ai dit, elle vient de Chochma. HaTorah Oraita mi Chochma Nafik. C'est une règle. La Torah sort de la sagesse divine. La Torah, c'est la sagesse divine. Au moment où cette sagesse se dévoile le jour de Pourim, eh bien, c'est le don de la Torah. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un don de Torah qui te met dans une position où tu es complètement annulé, où tu es complètement éteint, où tu es complètement... Le contraire. Tu manges, tu bois, tu existes, tu es fort, mais tu choisis toi-même de te mettre en condition de lâcher prise pour recevoir la pleine lumière de cette Torah. Donc, non seulement c'est le don de la Torah, mais c'est en même temps la réception par toi.
Alors, dernière question de Meïra. Meïra Malka.
Oui, shalom Arab. Si j'ai bien compris, alors, à propos d'Amalek, puisque nous sommes en terre d'Israël, il n'y aura plus de pogrom, puisque nous n'allons pas quitter cette terre aussi. On risque de la quitter.
Tout à fait. On ne quittera plus cette terre, c'est la dernière Géoula, malgré tout ce que la logique humaine pourrait vous faire peur aujourd'hui aussi.
Et elle me fait peur.
Je vais vous dire quelque chose de plus grave. Je vais vous dire, si vous sortez votre argent d'Israël aujourd'hui, pour le mettre ailleurs, cet argent sera perdu. Vous aurez été averti.
Merci.
Okay.